Merci Amaury et bon week-end. Trois invités de l'action et du cadre. Le poète Jérôme Gam invite à une reconfiguration active du regard et les chercheurs Olivier Pénoula-Cassagne et Gaël Théval entreprennent d'examiner ce lien instable et débraillé entre poésie et performance.
Poésie et ainsi de suite. Par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Jérôme Gam, Olivier Pénoula-Cassagne, Gaël Théval, bonjour, bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Performance et présence au monde, hein, disons pour faire court, hein, c'est ce qui nous occupera aujourd'hui. Olivier Pénoula-Cassagne et Gaël Théval, respectivement maître de conférence à Paris 3 et professeur agrégé de lettres modernes à l'université de Rouen, entre autres. Tous deux occupés, entre autres, de poésie contemporaine. L'un mentionne Antonin Artaud et Beat Generation, à qui vous consacrez d'ailleurs un tout récent ouvrage qui paraît aux éditions du CNRS. J'imagine d'ailleurs que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne sais pas, j'imagine que c'est par Artaud, peut-être, que vous en êtes arrivé à la Beat Generation.
C'est la fameuse émission pour en finir avec le jugement de Dieu, qui a été censurée, comme vous le savez, et qui circule sous le manteau à la fin des années 50, au début des années 60. Certains poètes de la Beat Generation, Ginsberg par exemple, entendent ce poème. Et puis bien sûr, Elsick, Dufresne et quelques autres s'y intéressent de très près. Et donc il y a un lien évident entre, autour de la personne d'Artaud et de la figure d'Artaud.
Qu'est-ce qu'ils y entendent ?
Qu'est-ce qu'ils y reconnaissent ? Oh, une voix, un corps, des limites dont Artaud fait une expérience particulière, des limites transgressées. Voilà, une manière de déclamer, de jeter les mots, le texte, de brusquer la langue.
L'un mentionne Artaud, donc disais-je, l'autre Gaël Théval mentionne poésie expérimentale et poésie sonore. Ensemble, ça tombe bien, vous dirigez poésie et performance, qui paraît aux éditions nouvelles, hein, Cécile Defaux, au programme une vingtaine d'essais signés par des chercheurs et des poètes, parfois les deux en même temps d'ailleurs, qui se penchent sur cette bien instable notion de performance poétique, ou plus prudemment sur ce qui se joue entre l'un et l'autre, ou l'un dans l'autre, ou l'un avec l'autre, ou l'un contre l'autre parfois. Des toutes premières intuitions de Mallarmé jusqu'au slam même, hein, des poésies à crier et à danser à Christophe Tarkos, beaucoup de questions, pas forcément autant de réponses, hein, sur ce qui nourrit et anime cette poésie verticale qui fait corps, action, événement, chair et os et qui fait vroom, hein, parfois, elle se dispute souvent, mais pas toujours avec le livre, et pas seulement avec le livre. Et comme ça tombe bien, Jérôme Gam, vous et votre écriture performative, y faites forcément quelques apparitions dans ce livre, on y reviendra, alors que vous signez Salle d'embarquement aux éditions de l'Attente, de l'Attente, L', que vous désignez comme un road movie littéral, hein, qui mène Benjamin C, votre personnage, d'avion en transit, d'aéroport en hôtel, traversant un monde, disons, saturé d'images, saturé de textes, de signalétiques, d'écrans, d'enseignes, avant que le cadrage d'un smartphone ne le ramène au réel, hein, curieusement, c'est-à-dire réinitialise sa façon de voir. J'ajoute, Jérôme Gam, que vous êtes par ailleurs traducteur, écrivain, poète et traducteur, souvent debout derrière votre micro, souvent vous aussi entre deux avions, poète d'un genre, disons, augmenté, à entendre, travaillant avec tout un tas de pratiques extérieures au poème, musique, son, images, films, contaminé donc par l'image en général et l'écriture cinématographique en particulier, ce qui explique que nous commencions par là.
Une fois, je me suis endormi sur l'autoroute entre Marseille et Lyon. Ces lignes qui défilent. Je me suis endormi quelques instants. Et je me suis réveillé parce que ma voiture a heurté le truc du côté gauche qui sépare les deux sens. Je me suis accroché au volant, désespérément, essayant de garder les yeux ouverts. Et j'ai vu. Ce n'était pas une idée, un mirage. J'ai vraiment vu. Comme si on pouvait voir le même endroit il y a 1000 ans ou dans 1000 ans. Cette piste de bitume, de goudron, complètement lézardée, fissurée, envahie par les herbes, comme les vestiges d'une civilisation antique. Inutile, délabré. Le Parthénon, les pyramides, l'autoroute, les usines, tout était pareil. Et sur cette piste, des hommes, des femmes, des vagabonds, un sac au bout d'un bâton sur l'épaule, marchant, comme à la fin des films de Charlot. Et pas pour aller quelque part. C'était fini. Ils allaient. Et je me suis dit qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Que bientôt, ça en serait fini de tout ça. Des HLM, des autos, des cinémas. Peut-être quelqu'un de très vieux, l'ancêtre, se souviendrait encore. Et expliquera aux jeunes qu'il y avait des cinémas. Que c'était des images qui bougeaient, qui parlaient. Et les jeunes ne comprendront pas.
C'est fou ce que vous croyez encore en l'homme.
La voix de Jean-Pierre Léo, bien sûr. Alexandre, un extrait, bel extrait. Merci Jérôme Gamme, hein, de La maman et la putain, de Jean Eustache. Qu'est-ce que cette séquence-là vous souffle ?
Elle me souffle beaucoup de choses. D'abord, peut-être la décrire. C'est en blanc et noir. Ils sont sur un lit. Ils passent beaucoup de temps dans leur lit dans ce film. Ça se passe en 72, fin 72, c'est-à-dire quelques années après ce qui est parfois célébré cette année, c'est-à-dire mai 68. Le corps de Jean-Pierre Léo est filmé en train de parler. Donc la première des choses, c'est que Eustache filme le langage, magnifiquement le langage. Et qu'est-ce que ça peut susciter de filmer le langage? Ça peut montrer que le langage qui est dit par ce personnage peut lui-même être une machine cinématographique. Parce que Léo est en train de nous dire, son personnage est en train de nous dire, j'ai vu, j'ai pas rêvé, j'ai pas halluciné, j'ai vu. Et donc c'est un film qui est en train de filmer une personne qui parle pour décrire des choses. Donc ça c'est la chose que je trouve exceptionnelle dans ce film et dans ce passage en particulier. C'est qu'il y a un circuit, une série d'allers-retours entre voir et dire et parler, entre regarder et parler, entre parler et faire voir. Et ça, c'est déjà la chose qui me touche énormément. Et la seconde chose qui me touche énormément dans ce passage, c'est que c'est en train de nous parler de la politique comme une succession ou une capacité à inventer, à imaginer, presque en termes de voyance, de Rimbaud en passant par à inventer des réels alternatifs possibles. Indépendamment de savoir s'ils sont positifs ou négatifs, c'est une capacité à dire le réel n'est pas forcément ce qui est supposé être là. Le réel n'est pas forcément ce dont on nous dit qu'il ne peut pas être autrement. Donc, deux raisons pour répondre à votre question, formellement et sur le fond, j'allais dire politiquement et éthiquement, je trouve ce travail-là extraordinairement puissant.
Alors, ne reste qu'à le recadrer, ce réel, hein, ce que vous dites pourrait faire écho un petit peu avec, évidemment, le texte dont on va parler, hein, Salle d'embarquement, Jérôme Gamme. Cinéma toujours, d'ailleurs, hein, ce texte que vous signez aux éditions de l'Attente, c'est une sorte de montage, en tout cas, qui alternerait des régimes de texte, hein, dans les pas de votre personnage, Benjamin C. On le suit, lui, dans ce monde hyper globalisé, c'est-à-dire on le suit dans ce qu'il voit, c'est-à-dire dans un premier temps, hein, avant qu'il se mette à voir autrement et autre chose. Et ce qu'il voit, c'est tout ce qui fait texte et image autour de lui. Alors il y a bien sûr les tableaux d'affichage, les relevés de signalétique, des journaux, des produits de grande distribution, des itinéraires, des chaînes de télévision, Internet, des compagnies aériennes, on y reviendra à tout cela. Ça donne au final une sorte de, à la fois de montage et de continuum, hein, qui alterne donc des récits et des textes trouvés, avec des alternances aussi de caractères, hein, de typographie, de cadrage, d'encadrement même, des superpositions de textes, des listes, hein, comme je le disais. Le texte même parfois est au bord de l'effacement, il y a même des changements de narrateur, hein, des changements de point de vue. Tout ça aurait à faire, j'imagine, aussi avec le cinéma. Et à tel point d'ailleurs que vous ouvrez votre texte, non pas avec Eustache cette fois, mais avec Godard, hein, à qui vous empruntez une citation extraite d'une célèbre conférence sur le montage. Godard disant « champ, contre-champ, imaginaire, certitude, réel, virgule, incertitude ». Qu'est-ce que cet emprunt-là à Godard dévoile de l'écriture même du texte ?
Cette phrase de Godard, pour moi, elle est profondément politique et esthétique. On revient à ce que je disais sur Eustache, parce qu'il est en train de nous dire le réel se construit constamment, il ne cesse pas de se construire. Et par incertitude, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, qu'on ne peut pas lui donner un sens une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle qu'on ne puisse pas lui donner un sens une fois pour toutes. Et qu'il est donc à nous de le construire, ce qui fait qu'on a un travail une tâche très importante et très réelle. Et j'avais envie de commencer ce livre par ça, parce qu'il parle de la globalisation, ce livre. Or, la globalisation, elle est prise dans toutes sortes de discours, d'images. Mais il y a une série de changements, de métamorphoses, de la manière dont on vit, individuellement ou collectivement, très 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 importante. Comment essayer de la traiter, cette globalisation-là, sans forcément adhérer passivement à tous les discours qui prétendent nous la définir? Autrement dit, pour revenir à Godard, si le réel est une incertitude, cette globalisation dont on nous dit qu'elle est notre réel contemporain, comment la pénétrer, comment y voyager? Avec un peu plus de distance, en la rendant incertaine afin de mieux la connaître. Rendre quelque chose incertain, c'est s'apprêter à le connaître davantage, à le connaître mieux, plus créativement. Et donc c'était ça l'idée.
Cette globalisation, Jérôme Gam, justement, c'est peut-être aussi ce qui empêche d'une certaine façon le réel de se déplier, qui est un terme que vous utilisez d'ailleurs dans le texte. Je pense à la construction de votre texte, hein, à sa structure, qui est ce montage qui semble bégayer ou en tout cas être retardé ou faire du surplace, hein, je ne sais pas comment il faut le dire, qui ne parvient pas donc à se développer, puisque le texte a beau avancer dans sa narration, les chapitres, eux, s'en tiennent presque jusqu'au bout, au chapitre 1, toujours recommencé, toujours relancé. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ce surplace, ou en tout cas ce plan fixe, que la narration ne peut rien, ou en tout cas qu'il n'y a pas de narration possible au milieu de toutes ces strates?
La narration peut beaucoup, et il y a beaucoup de narrations possibles. Mais je crois que je voulais dire d'abord que ce surplace, il faut d'abord le sentir, le saisir. On est en train de nous dire que la globalisation consiste à pouvoir aller d'un endroit de la planète à un autre. D'un certain point de vue, c'est vrai. C'est vrai, il y a toutes sortes d'avions et de bateaux et de trains à grande vitesse dans mon livre.
Ce personnage est en transit permanent, mais en même temps, on fait du surplace.
Paradoxalement, s'il y a du transit, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Et s'il y a du transit permanent, ça veut dire qu'il y a une permanence, qu'on est dans cette espèce de mouvement, comme si la globalisation avait créé des interstices dans lesquels on réside. Et ce type, dans mon roman, passe beaucoup de son temps dans les aéroports, c'est-à-dire dans les zones aéroportuaires qui sont entre deux, des no man's land. Et j'avais envie de l'y faire séjourner dans ces endroits-là afin qu'il y puisse y capter, et j'espère le lecteur aussi, la sensation que produit cette globalisation-là. C'est très curieux. Il y a, on dit que la globalisation nous permet de connaître l'ailleurs et en même temps, elle standardise beaucoup de choses. Un aéroport, il y a un rythme des corps, il y a un rythme de la perception qui est standardisé dans un aéroport. Et paradoxalement, ça permet de se reconnaître dans un autre endroit qu'on ne connaît pas ou dans lequel on vient d'arriver, ça permet peut-être d'être plus perceptif à des différences. Le smartphone aussi, c'est un peu comme c'est une standardisation très 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 importante à travers nos gestes, à travers le pouce, à travers la manière dont on prend des photos, une standardisation de l'espace-temps, une standardisation de notre relation à l'espace-temps. Et malgré que ça puisse paraître comme une standardisation pure et simple, ça permet aussi de l'habiter à notre manière, de singulariser cette standardisation. Comment est-ce qu'on peut habiter la globalisation où tout semble être standardisé de manière singulière, de manière créative, de manière personnelle? C'est un peu l'histoire de mon roman.
Vous appelez ça un roman?
Vous venez de me choper la main dans le sac. J'appelle ça un roman, oui. J'appelle ça un roman, mais avec tous les guillemets qu'on voudra, parce que il y a souvent attaché à ce mot roman un autre qui m'importe sans doute davantage. C'est pour ça qui est récit. Et c'est un récit, ça raconte. Ça raconte, et ça raconte par des stases, ça raconte par des photographies textuelles, des photopoèmes, ça raconte par toutes sortes de travaux sur la langue, donc qui ressortent plus du geste poétique, mais ça raconte.
Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Jérôme Gam?
1. On est à arriver à l'hôtel. Chantier, centre-ville, banlieue, grande banlieue, parking en plein air. On est à port industriel, conteneur, grue, nœud ferroviaire. Train entre en hangar, porte-conteneur. On est à piste d'aéroport, bruit des moteurs, cabine, la nuit, silence, air conditionné. Salle de conférence, intervention collègue, baie vitrée, ciel clair. On est à la côte, la mer, l'Australie. Campagne US, vue d'avion, là, la ville, piscine, hôtel, spa, l'Asie. On est à building, banque, assurance, hall immense, façade en verre avec vue sur la ville. On est à autoroute la nuit, le jour, le ciel bleu là, trafic rapide sur les voies, passeport, embarquement. On est à Boeing 767, évolue sur la piste, vol de nuit, décollage immédiat. Altitude, Porto. Malmö. Vitesse au sol, Barcelone. Température extérieure, Rostov. Vitesse de l'air, Shannon. Mer Baltique. Heure locale au départ, Dakar. Sydney. Vent arrière, Freetown. Distance à parcourir, mer de Chine. Heure prévue d'arrivée. Mais où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on voit exactement? 1. On voit le curseur blanc défile sur le ruban gris, devient rouge là, sous l'image. On voit parcourir, créer, j'aime, ajouter le view strip sur le côté là, la vidéo. 1. Suivante. 2. Suivante. 3. Afficher, plus le bleu sort, parcourir le noir sous le rouge là, le cadre rouge, le vu 198 205 fois. On voit mise en ligne le commentaire, le top, ajouter un, tous les commentaires. Aide, approbe, presse et bloc, droit d'auteur, créate, partenaire, publie, développe, confidence, découvrez les nouveautés. Mais où on est là? On est à le monde de plein pied, en surface, par extrait se multiplie. At the tip of a click you've dreamed it. YouTube has clipped it for you. Where am I exactly? You're at found image, found footage. Image tournée, on trouve ce qu'on veut, on trouve mieux, on boucle à tous les coups. YouTube has clipped it for you.
Merci beaucoup Gaël Téval, je vous ai vu prendre des petites notes, je vous dénonce. Ça a un rapport avec ce qu'on venait d'entendre.
C'est un rapport avec ce qu'on venait d'entendre, je me posais la question de savoir comment... Je peux nous poser une question
à Jérôme Gamme,
du coup. Hein, est-ce que vous donnez ce texte en performance? Et quand vous le donnez, est-ce que vous utilisez les images que vous avez empruntées ou avec lesquelles vous avez travaillé?
Ça m'est arrivé de le lire, notamment à la Maison de la Poésie, à l'occasion de sa sortie à l'invitation de son directeur. Et pour le coup, il n'y avait pas du tout d'image derrière. Et ce n'était pas dans le dispositif d'une lecture performance classique, c'est-à-dire debout avec un micro sur pied. C'était assis à une table, un peu comme ici avec un micro. Autrement dit, ça revient peut-être à la question précédente sur le roman. Il ne s'agit pas de poésie sonore, il n'y a pas de CD dans le livre, il n'y a pas de photo, il ne s'agit pas de poésie performance. Il s'agit d'une lecture d'un récit. Et je ne me suis pas trop servi de photos directement. Autrement dit, j'en avais pris quelques-unes lorsque j'ai voyagé en Asie et ailleurs, sur mon téléphone. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de projeter afin de lire le livre.
Je voudrais revenir peut-être sur ce que vient de demander Gaël Téval, hein, sur la façon dont vous avez lu ou dit ce texte-là, c'est-à-dire non pas comme un texte performé, non pas en vous appuyant sur des pratiques extérieures à la poésie, comme vous le faites très souvent. Et je me demandais ce qui, dans ce livre-là, avait imposé justement cette forme, ou en tout cas avait empêché les autres formes d'advenir. Sous-entendu, en fait, c'est comme si toute cette question de la performance se logeait dans l'écriture même du livre.
Absolument. Je crois que ce qui a empêché, parce que c'est un très bon verbe que j'ai senti à travers l'écriture de ce livre-là, empêché d'aller vers du performatif, c'est le récit, une fois de plus. Le récit au sens, comment est-ce qu'on raconte ? On peut raconter en poésie, il peut y avoir tout à fait des effets de récit en poésie, mais j'avais envie de trouver une façon de raconter un peu sur le long terme, avec une durée. L'idée, c'était de trouver une façon de raconter qui soit à la fois transitive, où on raconte des histoires, mais avec la force de la poésie que j'ai écrite depuis que j'ai commencé à écrire, qui puisse aussi avoir des moments intransitifs, des moments de pur son, de pure vision. Et l'autre difficulté a été consister à parler de la globalisation à travers les images, sans mettre des photographies dans mon livre, supposait qu'à un moment, il fallait que je fasse voir les choses le plus directement possible. Et là, évidemment, la poésie a été d'un très grand recours. C'est un livre qui est dans un interstice, qui est dans un atcom, un peu mon personnage est dans ces no man's land, dans un interstice. Je suis moi-même, comme écrivain, dans une espèce de no man's land entre la poésie telle qu'on l'entend la plupart du temps, c'est-à-dire quelque chose de formel et d'intransitif, et le récit qui va s'appuyer sur un temps long et dérouler une histoire.
Alors, sans mettre de photographie, comme vous dites, Jérôme Gamme, pour autant, on va y venir quand même, parce que la photographie, évidemment, y est dans ce texte-là. On l'a entendu hein, dans votre lecture. Alors, il y a tout un tas de registres de discours, de registres de langue, de registres d'écriture, de régimes d'écriture, notamment cette façon que vous avez de pratiquer comme ça des coupes, presque des aspirations en fait à l'intérieur de la phrase qui viendrait aspirer des sujets, aspirer des compléments d'objets, et on l'a vu dans la lecture, hein, en s'accélérant. Parfois il y a aussi comme presque des lambeaux comme ça de textes, et puis il y a toute une série comme ça de petites textes photographies ou photographies de textes, hein, qui sont au format carré, qui sont en fait qui cadrent à l'intérieur du livre ces petites photographies, hein, qui sont les photographies prises ou imaginées par le personnage.
Prises par le personnage
avec son smartphone. Et donc ça donne sur la page, au format carré, un petit texte qui dit le point de vue, qui dit même parfois la distance, qui dit ce qu'il regarde et comment il le regarde et comment il le cadre. Qu'est-ce que ce serait qu'une syntaxe photographique,
hein. Ah, mais c'est une très belle question, parce que c'est une de celles qui m'a un peu obsédé dans l'écriture de ce livre et dans le prochain que je termine. Ce qui me fascine avec la photographie, c'est que lorsqu'on regarde une image, c'est sans doute la même chose avec la peinture, mais lorsqu'on regarde une image, on croit pouvoir la saisir en un coup d'œil, et sans doute peut-on la saisir en un coup d'œil, et en même temps on peut y retourner très très longuement. Autrement dit, dans une image, ça montre et ça raconte simultanément. On ne peut pas faire ça avec les mots, parce que les 26 lettres de l'alphabet ne sont pas directement représentatives. Il faut en passer par d'autres systèmes. On doit lire, pour lire, il faut lire de gauche vers la droite. Il faut se représenter le sens des mots. Alors qu'avec une image, directement, on peut passer d'un dire à un raconter. On peut passer d'un montrer à un raconter simultanément. Et cette puissance qu'a l'art visuel, qu'ont les arts visuels de faire ça, me rend profondément, au bon sens du terme, jaloux d'eux, c'est-à-dire très amoureux d'eux, c'est-à-dire très très envieux de leur capacité à faire ça, et je sais que je pourrais pas le faire avec des mots. Mais même si je pourrais pas le faire, le désir de vouloir émuler ça, cette capacité-là, à dire et raconter en un coup, va me faire travailler. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça me fasse travailler, c'est que ça me fasse essayer, rater mieux, comme disait l'autre. Je crois qu'il y a une propédeutique ou une éthique dans cette relation aux arts visuels. Retravaillé par la littérature, je reviens à Eustache, retravaillé par le langage. Quand on retravaille l'image par le langage, on arme son langage, et on arme ses oreilles, et on arme son regard d'une capacité à chaque fois pouvoir ouvrir de l'intérieur les choses pour les reformuler, pour respirer, pour les choisir ou les refuser, plutôt qu'elles nous tombent dessus. Et donc la littérature, je crois, a beaucoup à apprendre des arts visuels.
Une dernière question ou une dernière voix avant de passer au livre Poésie et Performance, à propos de cadrage et de récit et d'éthique, sans doute. Vous avez demandé à entendre une autre voix, et cette voix, c'est celle-ci.
Une fois de plus, avec Pickpocket, Robert Bresson, le célèbre metteur en scène d'Un condamné à mort s'est échappé, a fourni au milieu cinématographique un joli sujet de conversation. Certains le portent au nu, il est le plus grand, presque le seul. D'autres, en revanche, paraissent ne pas avoir très bien compris.
Et vous, est-ce que vous pensez qu'on vous a compris ?
Je ne sais pas si j'ai été compris, mais il s'agit de moi ou du film. Si c'est le film, je préférerais qu'on sente un film avant de le comprendre. C'est-à-dire que les sens interviennent avant l'intelligence.
Qu'avez-vous voulu faire sentir dans Pickpocket ?
Je crois que plutôt qu'une histoire que j'avais à raconter, je voulais faire sentir cette atmosphère qui règne autour d'un voleur, cet air qui donne de l'angoisse, du malaise.
Vous avez connu un voleur ?
Je crois que j'ai connu plusieurs voleurs, mais on ne s'en aperçoit qu'après, une fois qu'on a été volé.
Quand vous les connaissiez, vous ne sentiez rien ?
Si, justement, et je me rappelle un après-midi à la campagne où j'étais dans une pièce avec mon hôte et une troisième personne, et nous avions tous les deux le sentiment que cette troisième personne ou allait voler ou avait déjà volé.
Qu'est-ce qui vous donnait ce sentiment ?
Quelque chose d'extrêmement mystérieux et curieux que je ne peux absolument pas dire. Et c'est cela que j'ai voulu exprimer dans ce film, en même temps que cette horrible solitude dans laquelle s'enferme un voleur.
Un extrait d'une rencontre, une interview de Bresson, donc on doit être en 59, au moment de la sortie de Pickpocket, une interview assez incroyable. Je ne parle pas seulement des questions qu'on vient d'entendre, mais aussi même de la mise en scène, même de la lumière, du cadrage, de l'organisation en fait de cette conversation à trois. Au fond, Jérôme Gamme, c'est le document télévisé que vous vouliez faire entendre, plus que ce que dit Bresson lui-même en disant ça. J'ai une petite idée.
Il y a au moins les deux. Il vient de dire, on lui pose la question, est-ce que vous avez... Il a dit, je ne saurais absolument pas dire. Il ne peut pas y répondre, donc il fait un film. Et c'est un peu lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'avoir lieu, mais qu'on n'est pas outillé, qu'on n'y parvient pas, ça déplace notre établi, notre table de travail, et on va répondre à ce problème-là différemment. Il ne sait pas le dire, il va faire un film. Et je crois que la manière dont il parle, oui, pour revenir à votre question, la manière dont il parle, c'est-à-dire la manière dont l'entretien est mené, y compris la voix de la femme qui lui pose des questions, on a l'impression que c'est une voix blanche, quasiment en effet bressonienne, donc c'est aussi très, très joli. Mais ce qui est en train d'être dit fonctionne tellement bien avec la manière dont c'est dit que c'est quelque chose qui reste à l'esprit.
La voix de Patti Smith, cet extrait de l'album Peace and Noise paru en 97, mettant en musique et en voix un poème de Ginsberg. On l'a dit tout à l'heure, vous venez tout juste de faire paraître, Olivier Penaud-Lacassagne, un ouvrage sur la Beat Generation. Ouvrir avec Patti Smith pour évoquer performance et poésie qui paraît aux éditions Cécile Défaut est peut-être un peu décadré ou déplacé, parce qu'à bien y regarder, Haïtik, Artaud, Gerasim Louka, Julien Blaine, Christian Prigent, Christophe Tarkos, Filio Dufresne, à quelques exceptions, quelques recours près. Je pense à Dada et à Fluxus, notamment cette histoire-là que vous tracez tous les deux, est largement une histoire française. Pour quelle raison est-ce qu'il y en aurait une d'histoire française du lien entre poésie et performance?
Bon, c'est ce qu'on essaie d'analyser. La perspective du livre Poésie et performance est une perspective historique, théorique et critique. Mais revenons un instant sur Patti Smith. Il n'était pas incongru de commencer avec Patti Smith pour plusieurs raisons. La première, c'est que Patti Smith, avant d'être la chanteuse que vous savez, est poète. Et elle a publié au début des années 70 un certain nombre de recueils dans des maisons d'édition new-yorkaises alternatives. Enregistrées des lectures, en particulier 8 en 1973. Son premier album, c'est Horses en 1975. Et là, il y a un lien très intéressant qui nous renvoie à la poésie performée, c'est qu'elle s'est insufflée dans l'écriture poétique l'immédiateté, la rossité, l'attaque frontale du rock.
Alors pardon, je reviens à mon hypothèse française, excusez-moi, qui s'ouvrirait avec le 19e siècle et non pas le 20e, comme on nous l'a si souvent indiqué, qui s'ouvrirait avec Mallarmé, notamment, comme le suggère Jean-Pierre Bobillot dans son article consacré à la préhistoire de la performance, qui est le premier article qui ouvre donc cet ouvrage. Qu'est-ce que cette intuition première de Mallarmé viendrait ouvrir, cette intuition qui ne serait pas sans conséquences?
Jean-Pierre Bobillot, effectivement, revient sur ce qu'il appelle la préhistoire de la performance. Partant de Mallarmé, partant surtout des cabarets poétiques.
C'est-à-dire des premiers moments, effectivement, siècle, où voilà. Ce sont les poètes eux-mêmes qui se sont mis à dire leurs propres poèmes, c'est-à-dire au moment où les poètes se sont mis à avoir un corps, ce qui jusqu'ici était finalement assez peu le cas, et où en fait où il ne s'agissait plus tellement d'interpréter comme on le faisait, ou de déclamer comme on le faisait, mais en tout cas de vérifier en tout cas autrement le poème.
Voilà, c'est ça, donc avec effectivement les Hydropathes d'Émile Goudot, et puis le Chat Noir de Rudolf Salis. Ce sont des cabarets poétiques sur la scène parisienne, donc fin du 19e siècle, où les poètes viennent déclamer, pas justement uniquement déclamer des poètes, des poèmes par ailleurs écrits, mais produire des formes qui sont des sortes de formes totales, qui sont faites pensées pour la scène et qui se déploient au moment de leur performance, pour le coup. D'où ce rapport, après, avec la suite. Et Bobbio, après, continue cette filiation-là avec les avant-gardes historiques et Dada, qui est le premier autre moment très fondateur, plus connu, pour le coup. Donc on essaye comme ça de déployer l'histoire.
Si je peux ajouter juste quelque chose, cette préhistoire de la performance, qui est intéressant ici, c'est chez ces chanteurs de rimes, c'est cette promotion de l'éphémère, du provisoire. Cette promotion du concret de l'événement, du jaillissement soudain par rapport à une œuvre écrite. Et c'est ce que, je crois, Jean-Pierre Bobbio a voulu mettre en évidence dans cette préhistoire.
Si c'est une préhistoire, c'est qu'on n'y est pas tout à fait dans l'histoire, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour qu'on puisse véritablement parler de performance? Et je mesure, bien sûr, ce que ça a de problématique de dire ça, on va y revenir, forcément, mais néanmoins, à la différence de ce dont on vient de parler, qui, malgré tout, relève quand même surtout de la lecture publique.
Exactement. Je crois que Dada marque, pour le coup, un saut radical entre ce qu'on peut appeler une préhistoire et l'histoire véritable de la performance. Quelqu'un comme Hugo Ball qui propose un genre nouveau, dit-il, de poésie, une poésie sans mots, une poésie de son, quelqu'un qui va travailler sur l'inarticulé, au-delà même du langage, ou en deçà du langage, peu importe en réalité ici, c'est quelque chose qui marque le commencement de choses inaperçues en matière de poésie. Il me semble qu'avec Dada, nous avons un commencement véritable de la poésie performée.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Alors ce livre-là, Poésie et performance, son titre dit sa prudence d'une certaine façon, avec l'utilisation de ce « et » entre poésie et performance, parce que Dieu sait que les contours sont assez compliqués, assez difficiles, et vous commencez, Olivier Penon-Lacassagne, en citant un performeur désabusé et anonyme, qui dit ceci: « Performance, tout est devenu performance, un poète ouvre la bouche, performance. » Un poète ferme la bouche, performance. Il bouge un doigt, performance. Il ne bouge pas, performance. Que ce même poète use de logiciels ou de bandes enregistrées, qu'il projette vidéos et photographies alternant dûment ou non avec des effets d'oralité dûment réfléchis, qu'il s'accompagne d'une trompette, d'une guimbarde ou d'une guitare à cinq cordes, qu'il bafouille ou bégaye, qu'il sample et mixe des éléments textuels réinjectés dans sa lecture, oscillant entre le non-expressif et l'inexpressif, qu'il multimédiatise sa présence-absence sur scène et sur écran, et l'on parle de performance. Performance par-ci, performance par-là, tout semble soluble dans la performance, le mot même paraît insignifiant. Alors commencer par là, Olivier Penon-Lacassagne, parce que je viens de lire, c'est commencer par aujourd'hui, c'est par là qu'on entre. Comment est-ce qu'il faudrait on va quand même finir par y arriver, cette poésie performée aujourd'hui, par son instabilité justement, par sa capacité à tout dévorer, à tout hybrider, par sa dilution, selon comment on la regarde, selon qu'on regrette les formes prises ou selon qu'on s'en réjouisse, comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
En réalité, cette citation que vous avez lue est une fausse citation, c'est une mise en scène de ce livre que je me suis autorisé.
Quelqu'un aurait pu la dire.
Quelqu'un aurait pu la dire, effectivement. La performance, dit Blaine de manière très, très simple, la performance est un corps dans un espace et c'est un son dans un corps. On peut partir effectivement de cela. En même temps, on s'est aperçu, chemin faisant, que chaque poète, chaque performeur donnait de la performance ou retirait à la performance un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'il y avait des performances, il y avait une singularité de la performance de poète à poète, en quelque sorte. Et donc,
C'est pour aujourd'hui.
Ça, c'est pour aujourd'hui. Et c'est presque également pour hier. Alors, c'est la dimension historique de notre travail, avec des précurseurs. Il y a un texte sur Artaud que j'ai signé. Et puis, Gaël a travaillé sur Bernard Hetzig. Il y a quelque chose, évidemment, sur Dufresne, etc. Là, nous avons des éléments qui se mettent en place, des éléments de réflexion qui se mettent en place sur le corps, sur l'espace-temps, sur le langage, sur ce qu'est là, également, et tout à l'heure, Jérôme évoquait cette chose, sur ce qu'est la poésie. La poésie performée des années 50, 60 et 70, et jusqu'à aujourd'hui, à travers l'œuvre de Prigent, à travers l'œuvre de Penquin, qui nous donne également un texte, eh bien, la poésie performée s'attaque à la poésie. Elle s'attaque à une certaine idéologie de la poésie, de l'ontologie poétique, de la poésie de la présence, etc., etc. Et l'un des textes que l'on rappelle, autant Gaël que moi-même, et je crois Christian Prigent dans l'entretien que je mène avec lui, c'est ce texte très intéressant de Jacques Roubaud qui date de janvier 2010, publié dans Le Monde Diplomatique, et qui va donner lieu le fameux texte, évidemment, qui va donner lieu à controverse. Ce texte est justement, je trouve, très justement intitulé « Obstination de la poésie ». Je retiendrai ici l'obstination. Dans ce monde mondialisé, globalisé dont Jérôme parlait, qu'il y ait encore aujourd'hui quelque chose qui se nomme poésie et qui s'obstine, je trouve ça tout à fait remarquable.
Vous retenez « obstination » plutôt que « vroom ».
Mais également, effectivement, je conteste quelque peu, et là je m'inscris dans le sillage de Prigent, je conteste cette réduction par Roubaud de la poésie dite performée à une sorte de vroom-vroom spectaculaire, souvent inconsistant, insignifiant, etc.
Mais pour revenir sur cette notion de performance, et, qui est effectivement un terme, c'est un peu une tarte à la crème de dire qu'aujourd'hui c'est un terme galvaudé, parce que tout le monde utilise effectivement le terme de performance pour décrire des choses qui manifestement on relève pas toujours. Cela dit, le terme est intéressant à utiliser malgré tout comme cadre, c'est-à-dire que par exemple chez Bernard Hetzig, le poème a lieu, trouve son achèvement au moment de la performance. Donc il va y avoir effectivement la voix, le geste, le corps, l'image aussi, générée donc par la présence du poète sur scène lisant, un dispositif sonore, dont on va peut-être reparler, mais c'est ça qui fait œuvre. Et c'est pour ça qu'on peut parler, me semble-t-il, de performance en tant que ce qui fait œuvre a lieu dans l'ici et maintenant. C'est ça qui différencie aussi, et pas une question de degré ou de spectaculaire ou de parce que je fais un triple saut périlleux, ça devient de la performance, alors que quand je lis assis sur une table, c'en est pas. C'est pas ça la question. La question, c'est simplement de savoir qu'advient-il du statut de l'œuvre. Est-ce que l'œuvre est par ailleurs imprimée et va être lue? Donc, il y a bien cette idée-là, l'idée de lecture publique, on oralise un texte qui par ailleurs existe en livre. Ou est-ce que ce que je propose, le poète propose sur la scène, va avoir un statut en soi, ce qui n'exclut pas forcément la publication de livres par ailleurs.
Pour ce qui est d'aujourd'hui, hein, puisque c'est bien de ça dont on parle, en tout cas on va évidemment parler d'autres choses aussi, mais en tout cas on en était à la question du présent qui est problématique, en tout cas on le voit dans vos introductions à tous les deux, d'ailleurs vous faites référence au même texte tous les deux, avec cette idée que vous ne partagez pas forcément, ni moi non plus, hein, mais cette idée que au fond la performance aujourd'hui serait menacée d'une sorte de mollesse théorique. Je voulais juste m'attarder sur les choix que vous faites des poètes auxquels vous donnez la parole. Hein. Donc, je parle là des poètes vivants qui ont signé un texte dans votre ouvrage. Parmi eux, il y a donc Julien Blaine, Michel Mettel, Charles Penquin, Christian Prigent, mais ça c'est sous forme d'entretien. Mais les choisir, eux, c'était aussi dire ça, c'est-à-dire prendre acte du présent en choisissant des poètes qui pour l'essentiel sont, alors en dehors de Penquin, sont à peu près de la même génération. Donc pas de jeunes poètes dans ceux que vous avez choisis, ni même de moyens jeunes poètes dans ceux que vous avez choisis. C'est-à-dire des poètes qui sont déjà inscrits dans une histoire, qui par ailleurs ont déroulé une histoire qui elle-même bataillait avec l'histoire de la poésie. Ça veut dire que vous ne pouviez pas aller au-delà.
Alors, pour ce qui est du choix de ses poètes, effectivement, vous avez très bien dit, enfin, il bataillait avec l'histoire de la poésie. Donc, c'est aussi une mise en visibilité d'une histoire qui serait presque une histoire parallèle ou voire une contre-histoire de la poésie, en mettant en avant des figures qui sont centrales dans cette histoire-là et qui, finalement, dans des publications de type universitaire, on retrouve très peu.
Qu'est-ce qui résisterait, alors, d'un point de vue académique, à cette possible histoire d'une poésie performée ou de performance poétique, je ne sais plus comment les appeler.
On ne fait que la découvrir, hein, sur un plan universitaire, pour parler de cette institution. Cette histoire, cette contre-histoire de la poésie ne connaît que ses premiers travaux depuis moins de 10 ans.
Pour revenir justement sur la question du rapport de académique, effectivement, à ces formes-là, saluer quand même des travaux pionniers, comme ceux de Jean-Pierre Bobillot, qui travaille sur Bernard Haitink et qui a publié le premier sur Bernard Haitink en 1998, si je ne me trompe, donc c'est déjà très ancien, mais qui était tout seul pendant très longtemps, effectivement, à travailler et essayer de faire devenir ces formes-là, parce que dans le champ universitaire, et particulièrement dans le champ littéraire, on rejoint ce que disait Roubaud, quelque part, par rapport à ce qu'on se fait comme idée de la poésie, même si ça paraît invraisemblable, tant cette histoire a quand même plus d'un siècle, c'est compliqué d'appréhender ces formes-là comme des formes littéraires et poétiques. Parce que précisément, elles débordent de partout de la littérature, mais à partir du moment où on n'est plus dans le livre, pour une part d'université, on a l'impression que c'est compliqué. C'est pas
Cher Ongam, vous levez un sourcil.
Je crois que le geste théorique et critique qui consiste à analyser quelque chose, l'historiciser, le catégoriser, est important. Et qu'en même temps, revenant à ce qui a été dit tout à l'heure, les gestes poétiques, par principe, ceux qui sont forts vont ne pas forcément se préoccuper des catégories qu'ils traversent ou à l'endroit où ils poussent, ou ce qu'ils font avec. Et donc, il y aurait comme un principe d'existence qu'on ne peut pas complètement surdéterminer, prédéterminer, qu'est ce qui va arriver au poétique, au geste poétique, et aussi un principe tout à fait, à mon avis, important, qui consiste à tenir un discours sur ces gestes-là, l'historiciser, etc., la controverse un peu ancien-moderne entre Christian Prigent et Roubaud, était à cet égard-là, simultanément, lorsque je l'avais vu un peu de loin, à la fois, encore une fois, la même chose, et en même temps importante. C'est-à-dire qu'il est important de dire le poétique ou le geste poétique. Si vous avez son adresse, si vous avez son passeport, vous m'en parlez, parce que moi je ne les connais pas, je ne suis pas sûr de vouloir les connaître. Et en même temps, si la façon de faire ça consiste à dire il y a une pureté radicale, il y a une pureté, ou il y a un risque spectaculaire, c'est un piège, excusez-moi, pardon my French, c'est un piège à con cette histoire-là. Il y a un côté où il faudrait identifier constamment
le vrai.
On n'a pas forcément envie de faire ça, mais il y a aussi un autre côté qui consiste à dire ne venez pas nous dire ce qu'on est supposé être ou ce qu'on se trouve ne pas être. Et donc il faut tenir bon, insister, et je partage ce qui a été dit tout à l'heure par Olivier Lacassiane sur la manière dont le geste poétique n'est pas prédéfini par principe. On peut l'historiciser ensuite, on peut le cadrer, on peut faire tout ce qu'on veut avec, mais on ne peut pas prétendre le connaître une fois pour toutes.
Alors on va entendre justement l'une de ces voix dont on parle peu finalement, pas assez à mon goût, parce que c'est vrai que Haitink prend effectivement beaucoup de place, y compris dans votre ouvrage, on sent qu'il plane un peu partout, et on comprend par ailleurs, mais c'est vrai qu'il est très présent. La voix qu'on va entendre là tout de suite, c'est celle de Michel Mettel. Poète née en 1950, elle-même travaillait, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler un petit peu, par la poésie chinoise, un temps oulipienne, et qui s'en tient, elle, à, disons, la stricte publication orale. On l'écoute.
La loi du joule, de la thermie, de la mégacalorie, de la kilocalorie, de la calorie. L'homme de la loi du joule, de la thermie, de la mégacalorie, de la kilocalorie. Le code de l'homme. De la loi, du joule, de la thermie, de la mégacalorie. La proposition du code de l'homme, de la loi, du joule, de la thermie, et l'élaboration de la proposition du code de l'homme, de la loi, du joule, la promulgation de l'élaboration de la proposition.
Un extrait, bref, un extrait de complément de nom, enfin du cycle complément de nom, c'était dans Nuit Magnétique, hein, sur France Culture, le 22 novembre 1978. Deux textes, dont un qu'elle signe avec un titre manifeste, hein, qui dit « Accomplir le poème ». Elle pour qui, je la cite, hein, « La projection du mot dans l'espace représente le stade ultime de l'écriture ». Ce qui voudrait dire, j'imagine, Gaëlle Théval, que la poésie serait donc incomplète, sur la page en tout cas. Et après tout, performer, hein, fait écho à parfaire.
Oui, tout à fait. Michel Métaille, donc, qui est une figure extrêmement importante aussi, et qu'on n'entend pas assez souvent.
Qu'on n'entend pas, on peut le dire.
Hein. Qu'on entend peu. Et alors, aussi parce que, donc, effectivement, ce qu'elle propose, ce sont des. Longtemps des publications orales, hein, le terme, l'expression est d'elle, elle a refusé catégoriquement de publier des livres pendant très longtemps. Elle a fini par publier des extraits donc du poème infini qu'est Complément de nom. Donc Complément de nom, hein, c'est effectivement un poème qui est toujours en cours et puisqu'elle a pour ambition d'utiliser tous les mots de la langue. Pour l'écrire, donc ça peut prendre un certain temps. Et donc elle en a publié certains extraits en revue, mais jamais, en tout cas pas au début, en livre. Donc il y a vraiment un refus très net et assez radical, donc au début des années 70, hein, de sa part, du livre. Et donc le texte, le poème, s'accomplit pour elle donc, dans le moment de la performance. Ici, on entend à la radio, mais ce qu'on n'a pas, c'est le visuel. Et ça, c'est cette part-là aussi qui est
très élaborée,
hein, qui est très élaborée,
très précise.
Voilà. Quand elle lit, hein, elle déroule des très grands rouleaux, très très longs, qui sont imprimés des deux côtés, ce qui fait qu'à mesure qu'elle déroule, on voit le texte imprimé se dérouler en même temps. Donc il y a une dimension visuelle et graphique très forte aussi. Rouleau qui au départ était uniquement dactylographié et qu'elle a fini par calligraphier quand elle n'a plus trouvé de rouleau de machine à écrire, hein, parce que ça se faisait plus. Et donc il y a un dispositif visuel particulièrement important. D'ailleurs, elle revient dans son texte sur l'importance des supports. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans son travail, comme dans le travail de beaucoup de poètes performeurs, on dit comme ça, c'est la coprésence sur scène. On parlait d'intermédialité tout à l'heure. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement la voix, on parle beaucoup de voix, mais c'est pas uniquement ça, il y a aussi donc, un corps en mouvement, et puis il peut y avoir de l'imprimé, il peut y avoir des supports qui peuvent être mis en scène.
Il y a surtout de l'imprimé, alors je me trompe peut-être chez elle, mais en tout cas le corps disparaît relativement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'accent est mis sur la matérialité
sur énorme
du texte.
Rouleau hein. qui la cache aussi, par moment, effectivement, elle se cache donc derrière le très long rouleau. Et voilà, donc il y a cette dimension-là qui est assez majeure chez Michel Métaille.
Alors, on en a beaucoup parlé. On va l'écouter quand même, avec plaisir.
Hans, bonjour. Ou dois-je vous appeler Jean? Peu vous importe. Bien. C'est en somme maintenant au choix de chacun. Et voilà, Harpe. Enfin, je découvre votre maison de Meudon. C'est une réussite. N'est-ce pas Sophie qui l'avait dessinée? Mais vous avez tant fait de choses ensemble qu'elle doit bien, quelque part, faire partie de vos œuvres du haut. Non, non, grand Dieu, je ne veux pas la diminuer. Bien au contraire, je sais trop que, modeste, silencieuse, Sophie rêvait, Sophie peignait, Sophie dansait. N'est-ce pas Hugo Ball qui l'a décrite précisément en train de danser au cabaret Voltaire sur une complainte, je crois me souvenir, d'onomatopée, le chant des poissons volants et des hippocampes. C'est bien cela, n'est-ce pas? Ou quelque chose d'approchant. Quelle période! Vous n'avez pas dû vous embêter. Vous y avez lu vous-même, bien sûr, vos premiers poèmes phonétiques. Mais comment les appeliez-vous déjà? Ah oui, Falkenpumpen, c'est ça. Je me souviens, c'était en somme déjà un harpe farceur, espiègle, grave et sensible, tout à la fois. Et tout cela, dites-vous, parce que Dada était direct comme la nature, et que tout ce que vous avez pu couper, découper, dessiner, écrire, par la suite, oui, coller, assembler, sculpter, que tout cela est issu de cette spontanéité de l'époque.
La voix de Bernard Etzik, donc, un extrait de Respiration et Brève Rencontre enregistré à Beaubourg, je crois. Hein. C'était au début des années 2000. Cette fois, c'est à Jean, enfin Hans Arp, qu'il s'adresse, hein, le poète et artiste de souche dada. Alors, il y en aura d'autres, hein, d'adresses ou rencontres dans ce cycle-là. Je pense par exemple à Giono. Mais là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que Etzik s'adressant, alors avec ironie toujours, mais pas seulement, à une figure comme celle de Harpe.
Dans les relations de la poésie sonore à Dada, Etzik explique, il parle de Dada dans ses notes comme d'un parent retrouvé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément connaissance à l'époque, c'est-à-dire au moment où il commence à produire, Bernard Etzik, au milieu des années 50, il n'avait pas forcément connaissance de Dada. En tout cas, les poèmes phonétiques n'étaient pas quelque chose de connu par Etzik, qui n'était pas quelque chose de connu...
Pas par grand monde. Hein.
Pas par grand monde, voilà. Et on reconstruit une filiation dans l'après-coup, finalement.
Qui passerait par quoi ?
Qui passerait, effectivement, une filiation avec Dada, avec ses poèmes phonétiques. Et donc, c'est celle aussi qu'on tente de reconstruire là, passant par Artaud. Hein, voilà, ces filiations à Etzik, c'est employé très vite à les produire. Il a produit des textes sur l'histoire de la poésie sonore. Donc, il a vite voulu faire une généalogie de ce type-là. Dans Respiration et Brève Rencontre, juste une petite précision. Les respirations donc, sont issues de disques qui sont des voix de poètes enregistrées, donc sur lesquelles il a uniquement gardé la respiration. Il collectionnait ses disques, il en a une collection très importante, et du coup les choix, alors on peut évidemment parler de ces choix-là, mais les choix sont aussi liés, parce que vous parlez de Giono, lui il explique, alors je ne sais plus trop où il explique que c'était dû à sa collection, c'était pas forcément lié à telle ou telle figure avec laquelle il voulait entrer en relation, même si je pense qu'il y a quand même des choix de ce type-là, mais il y avait aussi le fait que il avait ça.
Alors Etzik, c'est aussi ça, hein, c'est aussi si donc de proche en proche, de ville en ville et de pays en pays se multiplient lectures publiques, rencontres et festivals de poètes, si le terme même de poésie ose ouvertement, sans honte maintenant, se prononcer, s'il s'est dépoussiéré de sa connotation d'ennui, de mièvrerie ou de rêve naïf, niais, spéculatif ou mal ficelé, si le poème de coucher caché, enfoui dans la page, en est venu à assumer sa présence sur scène, s'il a reconquis son droit de citer, s'il a cessé de ne circuler qu'en circuit confidentiel et fermé, s'il s'est ouvert au monde et réintégré la société, etc. C'est donc un texte de Bernard Etzik de 1992. Hein, alors ça me refait penser à ce que disait Jérôme Gamme aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi chez Etzik l'idée quand même du bon endroit, hein, où se trouver. Alors on comprend, parce que par ailleurs, de l'autre côté, la partie adverse a été raide, hein, et rude aussi contre Etzik, mais voilà, néanmoins, enfin bon, bref, c'est toute une époque. S'affranchir du livre, Olivier Penaud-Lacassagne, c'était s'affranchir de quoi, au fond ?
C'était une manière, il le dit ici, assumer sa présence sur scène, que la poésie assume sa présence sur scène. Je crois, je ne vais pas répondre à votre question parce qu'elle est trop difficile, mais ça me permet de... cette citation est datée, et ce qui est intéressant, c'est de l'actualiser brusquement, hein, si je puis dire. C'est qu'aujourd'hui, et Jérôme a abordé cette question tout à l'heure en parlant de son livre, c'est l'étape suivante qui s'ouvre. Qu'en est-il de la poésie aujourd'hui ? Ce n'est plus simplement pour la poésie d'assumer sa présence sur scène, mais c'est assumer et revendiquer pleinement sa présence dans le monde globalisé qui la méprise totalement.
Chez Etzik, il y a l'idée de... Il requalifie sa poésie sonore en poésie action. Et dans l'idée de poésie action, chez Etzik, il y a une volonté d'agir, de faire agir le poème dans la société. Et donc le livre...
C'est ce que dit l'étymologie de poésie.
Voilà, oui, mais et pour juste essayer de répondre du point de vue de Bernard Etzik, ou du moins de ce qu'il en explique, le livre, pour lui, ça représente quelque chose de mortifère. Voilà, pour lui, il y a un état de la poésie au milieu des années 50 où, selon lui, la poésie se noie dans la page blanche, est en voie d'étouffement, n'est lue que par d'autres poètes et donc reste dans l'entre-soi. Et donc l'idée, c'est de sortir le poème de tout ça et du coup de le remettre en circulation, de s'emparer aussi des nouveaux moyens à disposition, donc le magnétophone, qui s'est démocratisé à l'époque, le microphone, le disque, et donc de trouver des moyens pour que le poème, en recirculant, puisse avoir un impact et justement venir se confronter aussi à ces discours, donc aux discours médiatiques notamment, et venir s'y confronter au sens fort du terme.
Jérôme Gamin.
Je crois que si tous ces gestes qui ont consisté à sortir ou déconstruire ou s'abstraire de la manière dont la poésie avait pu être perçue comme une espèce d'idéalité, comme ça un peu, ont été très très utiles, je vais parler en mon nom. Il ne s'agit pas non plus de repurifier l'impur d'une certaine façon. Autrement
c'est,
dit,
oui, lorsque, c'est ce que je voulais dire en lisant justement le petit texte.
Lorsque je commence à écrire et que j'en viens à la poésie sur une scène avec un micro et la performance et que je regarde des choses et que je lis beaucoup de choses, c'est très très utile. Ça me donne beaucoup d'outils pour m'abstraire de toutes sortes, pour décaper toutes sortes de d'idéalisme que je peux avoir. Et c'est utile pour ça. Mais il est hors de question, je parle que pour moi, d'y séjourner au sens définitif, au sens comme si c'était la nouvelle Jérusalem. Il y a vraiment d'autres choses à faire. Ce qui m'intéresse, ce sont ce qui est fait. La boîte à outils en question que cette génération m'a léguée et dont je me suis emparé avec intérêt, gourmandise et désir. Il s'agit d'agir avec. Il ne s'agit certainement pas de faire de la religion dessus, de se prosterner devant de manière trop... Ce qu'il faut, c'est faire avec. Et ensuite, on jugera sur pièce.
Jérôme Gamme, Olivier Penot-Lacassagne, Gaël Théval, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à toutes et à tous.
Oui, puis cette question du livre, elle ne se pose pas du tout de la même manière maintenant. Et par rapport à ce que Haïtique raconte sur la nécessité de sortir la poésie du livre, là, on peut considérer qu'effectivement, il y a ce geste-là et que ce qui se produit maintenant, dans ce qu'on observe, c'est, tu disais tout à l'heure, in and out. Quoi. C'est
tout ça.
On y est, on y passe. Même Julien Blaine, qui est notre figure... n'arrête pas de publier des livres, mais c'est quelque chose parmi d'autres.
Ce que je retiens d'Haïtique, c'est la force et la puissance et le courage iconoclaste. Oui. Et c'est ça la leçon pour moi d'Haïtique. C'est pas certainement pas de se dire plus de livres parce que Haïtique n'a pas, on s'en fout de ça.
Non.
Ce que je retiens là, c'est la manière dont, dans un temps présent avec toutes sortes de déterminations, il arrive à créer des espaces interstitiels, des pas de côté. Ça s'appelle créer, ça s'appelle faire des choses de manière critique et créative. Et c'est ça la leçon. Mmh. Et je la retiens, la même leçon, on parlait tout à l'heure de Godard. Et Godard, il n'a pas cessé, il ne cessera pas, il l'a fait sur son téléphone ou avec une vidéo, de faire des films. Dziga Vertov, il nous dit qu'en 1929, que ça, c'est pas un film, mais il en fait un film. Après, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'il nous lègue. Est-ce qu'il nous lègue, ce sont des gestes, tu te servais de ce mot-là tout à l'heure, et à mon avis, il est crucial, des gestes, des œuvres qui sont puissantes, qui nous appellent nous-mêmes à nous poser les bonnes questions aujourd'hui, c'est-à-dire de bouger, de ne pas être comme un coloptère pointé dans le mur et puis être muséifié. Mmh, mmh, mmh.
D'une certaine façon, ce travail historique a pour finalité de réactualiser ce qui est encore vivant et vif dans ce travail pour aujourd'hui et pour demain.
Poésie, ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Lidwin Caron pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Jérôme Gamme, Olivier Penot-Lacassagne, Gaël Théval. Je rappelle que le marché de la poésie a ouvert ses portes mercredi, place Saint-Sulpice à Paris, et ce jusqu'à dimanche, et que vous y faites signature Jérôme Gamme, pas plus tard que dans une heure. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.